La question de David.
Pourquoi on considère, on voit dans tous les sparim, que la GAVA...
Dans tous les livres, tu veux dire.
Dans tous les livres. La GAVA, donc la fierté, le fait de sentir quelqu'un, on se dit, moi je suis. Pourquoi c'est... Il faut vraiment la bannir de son cœur, il faut l'oublier, faut l'enlever. On dit que c'est une des pires midotes, c'est un des pires traits de caractère qui puisse exister.
C'est le pire. C'est marqué dans les livres que c'est la source de toutes les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère. Pourquoi ? Pourquoi la fierté ? La fierté est l'expression de l'ego. L'ego, c'est la source de tout le mal qui est en nous. Pourquoi ? Quand on parle de midot, quand on parle de traits de caractère, on parle principalement de la relation qu'il y a avec l'autre. Et le principal, on peut dire le grand titre des bonnes relations avec l'autre, arrive lorsque je m'écrase devant l'autre. Et qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? L'ego. Alors parlons maintenant des mauvais traits de caractère. Quels sont les mauvais traits de caractère ? L'avarice. L'avarice, par exemple, elle est un résultat de l'ego. Parce que mon ego veut de l'argent. L'argent signifie pouvoir, signifie plaisir, signifie possibilité de me remplir. L'argent, c'est un pouvoir de me remplir. Quand je donne de l'argent, je dois moi me remplir pour l'autre. Colère. La source de la colère. La colère, c'est quand ça ne va pas comme je veux. J'explique une chose à quelqu'un, il ne comprend pas. Bon, j'explique une deuxième fois. Je sens là la patience qui commence à... Pourquoi ? Il commence à me casser les pieds. Il me casse les pieds, d'accord ? Au lieu de me casser les pieds, ça sort. Pourquoi ça me casse les pieds ? Parce que maintenant, mon ego est dérangé. Alors, si moi, je suis pas, j'ai pas un grand ego, j'accepte qu'on me casse les pieds. C'est pas grave. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelqu'un se met en colère toujours parce que l'ego, c'est très dur. La colère, c'est un truc, le Rav Israël Salanter, un jour, était triste.
C'est pas la colère qui est plus grave que l'orgueil ?
La source de toutes les mauvaises midotes, c'est la fierté. Maintenant, la conséquence, elle sera grave. La fierté aussi, c'est marqué. Celui qui est fier, c'est comme s'il est idolâtre. C'est marqué que par sa fierté, il repousse les pieds de la Shrina. Hachem dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Il se prend pour quelqu'un. Donc moi, je dois partir. Je commence à raconter qu'Arav Israël Salanter, qui était un des grands de Moussar, un jour, à la fin de sa vie, on le voit triste. Pourquoi ? Il dit, je me suis mis en colère. Ça fait 10 ans que je me travaille pour ne pas me mettre en colère. Je me suis mis en colère. Pourquoi ? Parce qu'un avraire est venu rouspéter alors qu'il ne sait que du bien, et rouspéter sur les choses bien qu'il faisait, comme ça, il ne voyait pas tout le bien que l'arbre avait fait. Ça touche, c'est dans son ego quand même, d'accord ? Au niveau où l'ego, c'est un gros morceau, c'est un très très gros morceau. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'humilité, on pourrait essayer de limiter un peu la casse. Oui, Jérémy ?
Si on peut avoir de la gavra dans l'étude de la Torah, par exemple, dès qu'on étudie bien et quelqu'un n'y est pas, tu vois, vu, de toute façon.
Voilà, maintenant. Voilà, donc un autre exemple maintenant de la gavra, par exemple, j'ai toujours raison. Hein? Dans un couple, des fois, tu as un conjoint, on peut pas, il est immariable, il est déjà marié, le pauvre, immariable, la pauvre, d'accord, ou le pauvre, enfin, l'autre conjoint qui est le pauvre. Monsieur ou madame a toujours raison, on ne peut jamais rien lui dire. Il a raison par définition, d'accord ?
Ou s'il a vraiment raison ?
Des fois, oui, mais au moins qu'il puisse entendre, on peut lui faire une remarque, il ne s'est même pas dans tous ses états, il peut entendre. Est-ce que ça arrive quelqu'un qui a toujours raison ? Toujours raison ? Non, de temps en temps, non, d'accord ? Il peut accepter qu'il a des défauts. Comment c'est dur à quelqu'un de dire « Oui, tu as raison, j'ai ce défaut. » Fais-le une fois. Fais-le une fois. C'est très dur. Mais alors quoi, on est des Superman, on est des super-égos, ouais. Des super-égos. Il faut se travailler, c'est très dur. C'est tellement dur. S'excuser. J'ai eu tort. C'est très dur. Mais c'est un exemple. Alors, quoi encore comme mauvaise midote ? Même quand ça ne touche pas entre l'homme et son prochain. J'en ai parlé dernièrement dans les cours. Une mauvaise midote, c'est la tava. L'amour des plaisirs de ce monde. Tava signifie les désirs, les plaisirs. Les plaisirs de nourriture, les plaisirs charnels, les filles, d'accord ? Plaisir de regarder les filles, plaisir de pouvoir aussi, d'accord ? Tout ce qui est plaisir. Hein ?
Richesse.
Les ?
Richesse. L'argent, je sais pas.
La richesse. La richesse. L'amour de l'argent, absolument. Ça existe, Tava Maman. Ou alors, rapport avec la fierté. Il y a un rapport avec la fierté. Parce que si maintenant quelqu'un ne reçoit pas les plaisirs, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait ton plat préféré, elle a encore une fois oublié le petit truc qu'il fallait rajouter pour que ce soit vraiment comme il faut bien. D'accord ? Alors une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois ça passe, 300 fois ça passe plus. Tu t'énerves. Pourquoi ? Monsieur, on n'a pas fait son plat comme il veut. Non mais dégage, espèce d'enfant gâté. D'accord ? C'est l'ego. Pour une bêtise. Un peu de gli-gli-gli sur le papier gustatif de la langue. Mais on est tous comme ça, faut pas rêver, on est tous comme ça, plus ou moins. Un c'est 3 fois, un c'est 300 fois. Bon, 300 fois, tout le monde s'énerve, d'accord, c'est clair. Pourquoi ? Elle ne fait pas mon désir. Ok, c'est encore, je peux accepter, mais je suis touché maintenant dans mes besoins. J'ai des besoins de ta'ava, des besoins de désir. Maintenant, si quelqu'un, il est humble, d'accord, il n'a pas de fierté, il dit, bon, on ne fait pas mon désir, tant pis, je ne vais pas profiter comme je veux, tant pis, qui suis-je ? Donc ça touche même au niveau des désirs, d'accord ? Tu verras que les gens, quand on ne leur donne pas leurs désirs matériels, ils deviennent plus facilement, et plus leur seuil de nerfs, il est beaucoup plus bas. Très rapidement, ils se mettent en colère, parce qu'ils sont déjà en situation de non-satisfaction. Quelqu'un qui a tout ce qu'il veut au niveau physique, tous les plaisirs, on lui fait un peu moins le plaisir, il peut mieux supporter. Quand il est déjà en état d'effort, qu'il n'est pas satisfait au niveau physique, d'accord ? Un petit guiding supplémentaire déjà, le faisceau des pourquoi ? Parce que sa fierté peut encore s'écraser, mais encore un peu, tu mets un petit papillon déjà sur le poids qu'il supporte, boum ! C'est la fierté encore une fois.
Ouais, d'accord, parce qu'on voit que les riches, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ne sont jamais satisfaits.
Bon, ça c'est... Le problème, c'est que quelqu'un, quand il a du pouvoir... Alors, son ego grandit. Tu le fais guili-guili-guili comme ça, déjà, il saute comme un... D'accord ? Quelqu'un qui est pauvre, il est habitué à s'écraser, à baisser la tête, ok, il baisse plus facilement. Quelqu'un, c'est marqué, à Achir, il y a un azote. Le riche, il répond avec effronterie. Il te regarde, qui es-tu, toi, pour me dire quoi faire ? Moi, je suis, tu sais qui je suis ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, je suis, d'accord ?
Le pauvre, il est considéré comme un rien.
Et le pauvre considère comme mort-vivant. C'est-à-dire qu'au niveau de son ego, il est mort. C'est marqué qu'il s'est bien parti en galoute. Pourquoi ? En exil. L'exil, il oblige la personne fière à s'écraser, à avoir plus d'abnégation. Parce que dans ta société, dans ton milieu, t'es quelqu'un. Quand tu pars, t'es plus rien. Qui te connaît ? On ne te connaît pas. Dégage, d'accord ? Viens pas dire, j'ai les millions, d'accord ? Va comme un type qui a rien. On te regarde même pas. T'es plus quelqu'un. Tu vas maintenant, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es quelqu'un. Au niveau de ta qualité humaine, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es quelqu'un. Et c'est très très dur, parce que tout le monde fait de toi quelqu'un quand tu as de l'argent. T'es quelqu'un, t'as réussi, t'es un super monsieur, tout le monde fait Abouda, d'accord, on te prend pour quelqu'un. D'accord, c'est très dur de ne pas se prendre au jeu. Qui c'était ? Le roi Yoshaya, je crois, je suis plus certain, un des rois d'Israël, qui a été caché. Qui a été caché, le roi antécédent a tué toute la descendance du roi David. Et lui, c'est le seul qui restait. Et le Kohen Gadol l'a caché dans le Saint des Saints. Et le Kohen Gadol l'a enseigné la Torah, tout ça, il est devenu un type très très bien. Quand le Kohen Gadol est décédé, il est devenu roi d'Israël. Alors, tant que le Kohen Gadol était là, il allait dans la bonne voie. Dès que le Kohen Gadol qui l'enseignait est mort, les gens autour de lui ont commencé à le déifier. Ils ont dit, ce type-là, il a habité quelques années dans le Saint des Saints. Il n'est pas mort. C'est un demi-dieu. Eh bien, le roi est à la fin tombé dans le panneau. Je te dis, t'es un demi-dieu. Mais non, Rav, vous rigolez. Non, un demi-dieu. Ok, un jour, deux jours, trois jours, 100 jours, 300, 300, 400, un demi-dieu. Tu rentres dans le Beth Hamidrash. Attention, là. Je suis quelqu'un. D'accord, t'es quelqu'un. Ça rentre dans la tête. Les gens qui font du kavod, le Messat Isharim, il dit ça, c'est tellement vrai. Quand on te fait du kavod, imagine maintenant que c'est un serpent qui t'a mordu. Parce que le kavod, ça touche. David, j'ai regardé parmi les élèves de la yeshiva, franchement, t'es un des meilleurs élèves de la yeshiva. Même en rigolant, ça te fait plaisir. Que tu sais que je te raconte des histoires. Non, c'est vrai. Je dis pas le contraire non plus. D'accord, c'est juste un exemple.
Ça, c'est le descriptif de ce comportement. Mais comment arriver à ne plus...
Ok. Comment ? Ça, c'est pas sa question. C'est une autre question. D'abord, bien comprendre que c'est la source de tout le mal. T'as une question à voir avec sa question ou ce que je suis en train de dire maintenant ? Bon, vas-y, on verra.
Vous avez dit souvent que c'est bien de complimenter une personne, d'avoir une tonne envers lui,
etc. Ouais. Ouais.
Il faut pas la flatter, mais d'un côté, il faut, oui, dire des bonnes choses.
Ouais. 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 Nous, on a l'obligation de s'occuper en tant que chesed, de s'occuper et de Olam Haba de son prochain et de Olam Hazeh de son prochain. Olam Hazeh. Quelqu'un vient, tu dois l'honorer. Et il faut lui faire du kavod, les rabbanim. On doit leur faire du kavod parce que pas pour lui, pour kavod à Torah. Vu qu'il connaît beaucoup de Torah, si c'est un vrai rav, un vrai talmid chacham, on lui doit du kavod parce que c'est un véhicule de la Torah. Donc lui, il a un nisayod, une épreuve de ne pas se prendre au jeu. Moi, je suis rien, je suis un nul. Ce qu'on honore maintenant, c'est la Torah qui est en moi, que j'ai rien fait pour. Qu'Hachem m'a donné maintenant une capacité d'ingurgiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de Torah. C'est un travail, c'est un travail. Et grande la Torah, ils se battent, c'est leur, une de leurs grandes épreuves, d'accord, de comprendre qu'ils sont rien. Maintenant, nous avons l'obligation, dans le cadre du chassid, de faire du bien à son prochain. Le bien de son prochain, c'est le bien de Olam Hazeh surtout. Je ne peux pas venir vers quelqu'un et lui dire, écoute, je vois maintenant que tu as fait des péchés. Il faut maintenant qu'apparte à vos notes. Quand tu vas aller au Olam Haba, tu vas recevoir une grande facture. Il faut maintenant que je t'explique tes péchés. T'en as un peu moins maintenant, dis-moi merci. D'accord ? On fait ça ? On ne fait pas ça. C'est à l'avdoraïta de donner une tarte à quelqu'un. Maintenant, pourquoi ? Du point de vue de lui, c'est marqué, si quelqu'un me fait honte en public, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem puisse m'envoyer. Et je ne réponds pas. C'est une super capara. Parce qu'on ne m'a pas touché ni dans mon corps, ni dans mon argent, rien que de mon odeur et ma fierté. Très bien. Donc celui qui fait ça, c'est marqué, il n'a pas droit au Olam Haba. Pourquoi ? Il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a donné au Olam Haba. Il m'a donné, c'est extraordinaire ce qu'il m'a fait comme un cadeau. Mon cher ami, tu n'as pas tout occupé maintenant de l'Olam Haba des autres. Oui, lui enseigner la Torah. Oui, le corriger quand il fait des averot, lui dire c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Mais le vrai chesed, le chesed, on va dire, matériel, il est lui donner du matériel. Dans le matériel, aussi le kavod, on doit honorer les gens. Pas trop, pour ne pas le rendre fou, d'accord ? Ça ne devient pas de la flatterie. Mais ce qu'il faut, de la Eretz. Savoir vivre normal. Et ça, on doit le faire. Et quand on nous fait du kavod à nous, il faut nous dire, je suis un zéro. Si le type en face qui me fait du kavod, il savait les péchés que j'ai en tête, il savait les pensées tordues que j'ai, il s'éloignerait moi en courant. Ça, c'est notre réflexe qu'on doit avoir quand on nous fait du kavod. Pour rejoindre un peu ta question, comment s'éloigner du kavod. Je vais y arriver, d'accord ? Ta question, Rouven.
Qu'est-ce qu'on peut dire quand les gens... Peut-être des fois, il y a des gens qui blaguent, ils nous flattent, etc. Alors, à quoi on doit répondre ? Parce que si c'est incessant, c'est-à-dire si c'est répétitif, ouais.
La réponse...
On peut dire et ils font ça exprès. C'est-à-dire, c'est pas ils font exprès de...
Quelqu'un nous fait du kavod. Nous, on doit lui dire, je sais très bien que c'est faux. Alors, il va te répondre, ah, en plus tu es humble. D'accord, c'est vrai. Non seulement tu es quelqu'un, mais en plus tu es humble. D'accord. C'est la réponse piège. D'accord. Donc il n'y a rien à répondre. Tu dis merci beaucoup. Et dedans tu penses, il se trompe complètement. Et c'est franchement, c'est pas dur à croire qu'il se trompe complètement. Chacun, s'il se prend maintenant au scanner, combien de pensées tordues il a, combien il se prend pour quelqu'un alors que c'est un nul de nul, combien il a des péchés horribles, d'accord, dans sa vie.
On est des anges, on est des hommes, ça fait partie, mais se sous-estimer comme ça, il n'y a pas un risque de se déprécier quelque part, et il y a un équilibre à trouver malgré tout vis-à-vis de ça, non ?
On doit prendre un petit peu parti de ce qu'il va dire.
On ne demande pas de se soucier.
Regardez, quand on est enfant, dites à un enfant quoi que ce soit, tout, t'es un nul, ce que tu fais, quoi que ce soit, tout. Après, il va être trop, ce qu'il va dire. Vous êtes obligé de le positiver, de dire ce que tu fais, c'est bien.
Absolument.
Donc on est comme ça,
absolument. On va dire, c'est comme ça. Dans la construction, on doit positiver. Et donner toute la confiance, que la personne ait confiance en elle, qu'elle comprenne qu'elle est quelqu'un vraiment. Mais après, il y a un certain moment, cette personne doit comprendre que tout ce qu'elle est, et attention, comprenez bien. Moshe Rabbeinu écrit dans la Torah qu'il est le plus humble des hommes. Si moi j'ai dit, je vais écrire maintenant, messieurs, écoutez tout, là, je suis le plus humble des hommes, alors Shaya, il est rayé de la carte, d'accord ? Il se prend pour un humble. C'est très très orgueilleux de dire ça, je suis le plus humble des hommes.
Il connaît ses capacités.
Maintenant, Moshe Rabbeinu, il parle les maîtres. Lui, il écrit la vérité. Et à un moment, il raconte dans la Torah, il dit, « Ubnei Israël, venachnu ma. » Il dit, à propos de lui et à Aaron, le peuple d'Israël leur en voulait, il dit Venachnouma, il voulait de la viande, etc. Allez, Venachnouma, Kitalouana, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre contre nous? Qu'est-ce que nous sommes? Chazal disent, Abraham Avinu, il a dit, je suis de la cendre. J'aurais dû déjà être de la cendre quand Nimrod m'a jeté au feu. Donc je suis rien. Le roi David, il dit, Anitola Adela, je suis un ver de terre, je ne suis pas un être humain. Le plus haut, c'est mon charbon qui dit, moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis même ni ver de terre, ni sans cheveux. Qu'est-ce que je suis? Il n'y a même pas quoi une chose que je peux être. C'est le plus un vraiment. Moshe Rabbeinu, néanmoins, écrit dans sa Torah qu'il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moshe, qu'il est le seul qui a parlé avec Hachem face à face, et quand il veut, il appelle Hachem, Hachem lui répond. Et comment il peut dire qu'il est humble? Ça veut dire. Le humble, ce n'est pas qu'il ne connaît pas ses qualités. Il les connaît très très bien. Sinon, c'est un orgueilleux qui n'a pas suffisamment de connaissance de ses qualités, alors il a besoin de se remplir par les compliments que lui font les autres. Quelqu'un qui est riche, qui connaît ses qualités, n'a pas besoin des compliments des autres. Donc, Moshe Rabbeinu connaît très très bien toutes ses capacités. Et toutes les qualités qu'il a, il est le plus grand des hommes qu'il y a sur Terre, en tout cas jusqu'à l'époque messianique. Il le sait. Mais ce qu'il sait aussi, c'est qu'il n'a rien fait pour. Hachem l'a créé comme ça. Donc connaître mes qualités, oui. Et que je suis bon en ça, en ça, en ça, en ça, en ça, oui. Mais moi j'ai fait quelque chose pour? Rien. Rien. Je suis un nul. Et c'est très bien. Donc on doit éduquer la personne, je pense, comme ça. Le positiver, c'est très dur. Le positiver en disant tout ce que tu fais est très bien. Et rajouter des points là-dessus. Un certain âge, pas trop tôt. La voix de Bédi, c'est trop tôt. Il ne faut pas travailler trop tôt sur l'humilité parce que ça peut nous casser dans notre élan. À un moment, après, il faut commencer à travailler sur l'humilité et comprendre que, ok, mon cher ami, tu as toutes ces qualités-là, mais ce n'est pas que toi, dans ce que tu es maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Après tout, on t'a donné, même si ça fait les bons choix, c'est Hachem qui t'a créé que tu fasses les bons choix aussi. Donc il y a une partie qui nous revient aussi, c'est clair. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Savoir que même si j'ai réussi, j'ai beaucoup de réussite dans ma vie, comme le message de Hachem, regarde combien j'ai de défauts aussi. Combien de péchés, mon entourage, ma famille. Il y a tellement de choses qui font qu'on a de quoi aller avec la tête, le nez dans le creuser, le enterrer dans le sol. D'accord? Et on va comme si on était les tops du monde. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais, ne pas oublier que nous sommes des malades de fierté. Dans cette mesure, on est des gens difficiles à vivre. Au niveau des midot, il y a beaucoup de travail contre la tahava, contre les désirs, les envies de ce monde, la colère, le désir de maîtrise, dans toutes les relations avec les autres, quand on doit s'écraser par rapport à l'autre, être mévataire, l'abnégation... Tout cela provient de la même source. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mauvaise midot? Hein? Jalousie, bien sûr. Et là, et moi, j'ai pas. De nouveau, mon ego. Et c'est la base du monde. Maintenant, comment travailler pour la question de David, de Dan? La question de Dan, comment travailler sur l'ego?
On peut pas mettre tout ça entre guillemets dans la Torah, c'est-à-dire que par exemple je peux être jaloux mais d'une manière positive de quand je vois une personne en train de faire son rachis ou son tasseau qui est dodo.
Ouais.
Je suis jaloux parce que
ouais. C'est marqué. C'est marqué kinat, c'est marqué kinat
chorm. Je peux être fier de moi d'avoir fait le chat ou quoi que ce soit, sans que ça soit
fier du chat, très bien. Il faut savoir ce qu'on a fait et qu'on a réussi, et être content qu'on l'a fait. Attends, je suis content que j'ai réussi tout ça, ok, mais à cause de ça, je suis maintenant un super grand quelqu'un? Non, grâce à Dieu, Baruch Hashem.
Je place au moins ma fierté dans...
Attends, je vais venir avec Israël. Maintenant, c'est marqué pour te répondre à ta question, la réponse à ta question au niveau de la jalousie. C'est marqué Kenat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie qu'il y a entre les Tarbe Chachamim, entre les étudiants en Torah, il faudra qu'il y aura plus de sagesse. La Chavruta, une partie de l'intelligence de la Chavruta, l'étude en binôme à deux personnes, c'est qu'on ne veut pas que l'autre ait raison. Donc on va se casser la tête pour mieux comprendre. D'accord? Donc il faut être suffisamment humble pour reconnaître aussi que l'autre a raison. Parce que des fois, tu peux voir quelqu'un en Chavruta, il est impossible, parce qu'il a toujours raison. D'accord? On veut maintenant, il a un plat tordu, et pendant une demi-heure, il va vouloir le tenir comme ça, et tu l'expliques par A plus B, oui, non, mais, c'est un peu fatigant. Ok, tu peux avoir des fois tort. Mais néanmoins, la confrontation, il y a toujours mon ego. Alors, c'est bien, mais c'est un pis-aller. C'est pas le mieux du monde. Si déjà quelqu'un il a la jalousie, au moins qu'il aiguillonne cela dans une jalousie qui va produire une chose bonne, qui aura plus de sagesse, plus de Torah dans le monde, plutôt que d'aller maintenant se bagarrer pour des bêtises complètement crétines. Mais idéalement, il faut une bonne jalousie. C'est quoi la différence entre une bonne jalousie et une mauvaise jalousie? Une bonne jalousie, c'est toujours bien. C'est quoi? C'est quand tu envies la personne sans vouloir qu'elle disparaisse. Tu es content qu'elle soit là.
Tu veux lui ressembler.
Tu veux lui ressembler, c'est un exemple.
C'est à toi d'envier.
Pardon ?
C'est rien d'envier.
Non, envier les bonnes actions qu'elle fait. Tu m'attends, elle a fait une bonne action, je l'envie, mais positif. Je suis heureux qu'il ait fait ça, je suis heureux pour lui, et moi aussi j'aurais bien voulu faire ça aussi. Moi aussi j'aimerais bien, il n'y a aucun problème. Mais pas que j'aimerais que lui ne l'ait pas fait, moi je l'ai fait. Je ne veux pas qu'il disparaisse. Le chilouk, la nuance, est-ce que maintenant j'aurais préféré qu'il ne soit pas là? Maintenant je suis bête midrash, d'accord? Moi je suis un grand chacham dans ma classe, je suis un des bons. Il y en a un qui est aussi bon que moi et même un peu meilleur que moi. Alors, réaction égoïste, égo, dire, un jour il vient, une semaine il n'est pas là. Ah, la scène n'est que pour moi, d'accord? Et tac, et tac, et tac. Ou bien il est tombé malade, ou il était fichu dehors du collège. Je suis heureux qu'il soit parti. Ça, à ce propos-là, c'est marqué « Oive Hachem Ichlou ». Les ennemis de Dieu disparaîtront. Parce que quelqu'un maintenant qui est bon, qui fait des mitzvot, qui est bon en Torah, d'accord, et tu es jaloux de lui, tu veux qu'il disparaisse, tu es un ennemi de Dieu. Ce type-là, il fait du bien dans le monde. D'accord? Ta Yeshiva en face maintenant. Elle réussit mieux que toi. Et toi, tu es jaloux maintenant, tu aimerais tellement qu'elle disparaisse. Le jour où il ferme, ah, quel bonheur, tu fais un... Non, tu dis rien parce que ça se fait pas, d'accord, mais quelque part dedans, tu es content. Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. T'es content maintenant quand Talmid Chacham a disparu, que Yeshiva a disparu, qu'un organisme qui fait du bien a disparu. Ennemi de Dieu. Par contre, si t'es jaloux, une jalousie positive du genre, c'est fantastique ce qu'il fait, si seulement je pouvais faire aussi comme lui, et un jour t'apprends qu'il n'est plus là, il ne peut pas venir, c'est dommage, au moins quand il était là, j'avais le challenge, il me boostait à aller en avant pour être au moins là. Ça c'est positif. Alors maintenant, commencer à répondre un peu à Dan, quelques minutes qui nous restent. Comment travailler la anava pour arriver à l'humilité? Il n'y a pas 40 000 moyens, il y en a peut-être deux. Un au niveau de la pensée, qu'est-ce que je dois penser? Travailler les pensées sur soi-même. Et après, dans les actes. Dans la pensée, ce que j'ai dit, penser, connaître ses qualités, il faut les connaître. Mais savoir que j'ai rien fait pour. Et c'est important de bien faire cette nuance sans cesse dans la tête. Je fais ci, j'ai réussi à faire ça, c'est très bien, mais après tout, c'est pas grâce à moi. Et peut-être, compte tenu du potentiel qu'Hachem m'a donné, peut-être que je dois faire beaucoup plus, je suis extrêmement coupable. Peut-être, par rapport au potentiel qu'on t'a donné, aux outils qu'on t'a donné, tu dois faire beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et t'es beaucoup plus redevable que les autres. Et c'est une vraie réalité, on ne connaît pas qui nous sommes. Chacun, quand il est né, reçoit un certain modèle d'âme. Il y a des grandes âmes, des petites âmes, des moyennes âmes. Quelqu'un qui a une grande âme, on lui demande beaucoup plus qu'un autre. Et qui peut dire, moi je suis au 100% de mon potentiel? Pour voir une chose pareille, il faut savoir quel potentiel d'âme tu as. On ne sait pas quelle âme on a. On ne peut pas savoir. Donc nous, on doit faire le maximum. Et jamais se dire, ça va mon cher ami, tu vas au paradis. Peut-être que pas du tout. Peut-être que oui, vous êtes attaché, mais peut-être que pas du tout. Donc, comment quelqu'un peut maintenant lever le nez et dire « Je suis quelqu'un, aussi grand qu'il soit. » Moshe Rabbeinu, il sait « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ce que j'ai fait, Hachem qui m'a donné. Peut-être que je n'ai pas fait assez. Peut-être que je n'ai pas fait assez. » Alors, rentrer en déprime à cause de ça ? Chassé Shalom, la déprime, c'est plus... Alors, un équilibre. Un équilibre fin entre un bonheur que Baruch Hashem ont réussi, mais savoir aussi que j'y suis pas pour quelque chose, c'est pas à cause de ça que je vais me prendre pour ce que je ne suis pas. Car il se peut que peut-être, ça reste un peut-être, je suis très loin de ce que je dois faire.
C'est ça qui rend vraiment humble.
Oui.
C'est de connaître, entre guillemets, comme ses capacités, mais de dire, mais en fait, peut-être que...
Voilà, en peut-être, parce que si on est en certain, alors on déprime, d'accord? En peut-être. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça c'est donc au niveau de la pensée, travail sur la pensée. C'est un travail que doit être quotidien, sans cesse. Après, au niveau des actes, quand on fait des actes, au bout d'un moment, il faut comprendre que nos actions sont toujours l'expression de notre intérieur. Les deux sont imbriqués. Maintenant, un des moyens de travailler sur l'intérieur, c'est travailler sur l'extérieur. Il y a des choses qui sont très dures de travailler sur l'intérieur. Parce que moi, je me prends pour quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je me prends pour quelqu'un. Alors, ok, avec la pensée, mais c'est limité. Un des grands moyens de travailler sur l'intérieur, c'est de travailler sur l'extérieur. Vu que l'extérieur est imbriqué avec l'intérieur, quand tu tiens l'extérieur, forcément, il va agir sur l'intérieur. Par exemple, tu es à table, ici à la Yeshiva, il y a un bon plat. Tu veux reprendre. En reprenant, bon, tu as le droit, parce que tu n'as pas repris trop, d'accord? En reprenant, il y aura moins pour les autres. Mais bon, c'est ta partie que tu peux reprendre. Tu ne reprends pas. Tu as envie. Là, il y a une guerre qui se passe tout de suite. Lui, moi, lui, d'accord? Et d'habitude, c'est moi qui ai raison, d'accord? Si c'est lui, en plus, on fait le droit. Non. Ça, c'est un travail où tu casses ton ego. En travaillant comme cela, c'est certain qu'au bout d'un moment, l'ego, il n'est pas content. Mais il s'habitue lentement à s'écraser.
Je casse mon ego, mais je casse peut-être pas mon ego.
Mais tu casses super ton ego. Mais si, j'expliquais auparavant que l'ego, il agit aussi dans la tahava, dans l'envie. Et là, c'est une double envie. C'est une envie de la chose, et je dois maintenant ne pas la prendre pour l'autre. C'est un super travail maintenant de casser son ego pour l'autre.
On peut être fier de ça, de dire je me suis cassé et tout.
Oui, bon, Rachel, mais tu peux dire, t'as vu comme pour un petit morceau de quoi, d'un peu sucré sur la langue, comme je dois me battre. C'est vrai que j'ai un super grand ego, hein, et pour ça, c'est ça, mon ego, il se bat maintenant pour la sucette. Alors, il faut à côté se donner des bons points aussi, et se dire aussi, ok, mais j'ai encore beaucoup de travail. C'est un travail, il faut être la bonne limite. On sait pas où on en est. Ce qu'on doit faire, c'est être le plus performant. Pour être performant, il faut un peu de bâton, un peu de carotte. Donc me dire maintenant un petit coup sur l'épaule comme ça, c'est bien, t'es con, je suis content de toi, ben ne sois pas trop fier de toi, t'as encore beaucoup de travail, t'es pas encore le plus humble sur Terre, ouais, d'accord?
Ça fait déjà un gros travail par rapport à
c'est vrai, quoi. C'est vrai, c'est un bon travail, très bien.
Je ne comprends pas, hein. C'est-à-dire que nous on essaie de se travailler et quand par exemple vous prenez l'exemple de manger, et ben, on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui nous pousse à involontairement.
Alors quelle réponse?
Merde, c'est volontaire.
Quelle réponse? Si quelqu'un veut aller maintenant, du jour au lendemain, être baba salé, parce qu'il vise haut, mais il n'a pas compris qu'il s'appelle Rouven, il a déjà dit Joseph, Rouven ou un autre, je ne parle pas de toi, je parle de tout le monde ici, d'accord? Et il veut dire, je veux être baba salé, Raf Esraim, et le stapler à la fois, et comment je peux encore avoir Berklal, encore quoi, de l'envie, de ces bêtises de nourriture sur ma langue, mais c'est complètement crétin. J'arrête tout.
C'est un niveau, ouais.
Il ne tiendra pas. Parce que comme vient de dire David, c'est un niveau qui est beaucoup trop haut. Comment on monte? On monte degré par degré. Step by step. Si on veut sauter maintenant 2, on ne peut pas. Chaque degré, il est haut déjà. C'est 1 mètre. 1 mètre, on peut sauter. 2, on ne peut pas. 2, c'est trop haut, on ne peut pas sauter 2 mètres. Aucun être humain que je sache, normal, saute 2 mètres. D'accord? Il y a quelqu'un qui saute 2 mètres? Ok.
Pas moi.
Ok. Dans le monde de la Torah, ça n'existe pas. Il y a 1 mètre, pas plus que 1. 1, attends un moment, 1, pas 2. Donc comment on va commencer? On va commencer maintenant, 2 fois par semaine. Je vais manger moins. Hein?
Le jour des pancakes.
Exactement. Exactement, le jour des pancakes.
Oh là là.
C'est dur, hein?
Ça va y aller.
Très dur.
Alors qu'on peut travailler sur quelque chose de plus important.
Mais... La question de...
Le regard vers les...
D'accord, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Mais c'est un grand travail déjà. Regarde comment je ne pas des pancakes, c'est déjà tout la pancakes, c'est dur. De cela, ça te permettra demain aussi, par rapport à ta femme, de t'écraser, quand il faut, par rapport à tes parents, par rapport à un autre. Maintenant aussi, bien sûr, avec l'autre. Alors essayons de trouver d'autres cas pratiques. Dans tous les cas où notre orgueil va... Essaye maintenant, vous parlez maintenant dans la chambre, d'accord? Chacun donne son avis, une discussion. T'as un avis, tu dis, moi aussi, j'ai, moi je. Bah, pendant un quart d'heure, tu dis pas moi je, tu laisses les autres parler. C'est dur. Pas prendre le micro pendant un moment, d'accord? Parce qu'on a l'impression que si on parle, on prend pas le micro, on n'est pas quelqu'un. On a besoin de dire, je suis, allez, oh, j'existe, je suis là, il y a moi, ouh, coucou, d'accord? J'existe. Dis pendant un quart d'heure, non, je vais pas dire ça. C'est très, 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 très difficile. Le matin, quand tu es dans le lit, il faut arriver à l'heure à la prière. Mais c'est l'ego dans toute sa splendeur, d'accord? Il faut se lever. On sait très bien qu'on ne va pas y arriver, on va être en retard. Mais le duvet, plus 10 000 kilos de terre chaud comme le duvet, d'accord? Dehors, il fait froid, je mets le petit doigt, déjà dehors, il fait frisquet, d'accord? Vas-y, lève-toi, casse ton ego. Ces choses-là qui sont des choses quotidiennes, elles cassent l'ego, c'est clair. La prière. Il y a une force de l'ego très forte dans la prière, ne te concentre pas. Pense, c'est dur de se concentrer. C'est dur, on n'a pas envie de se concentrer. On peut demander de demander à Hachem. Demander, c'est aussi la prière, c'est un grand moyen d'arriver à l'humilité, parce qu'on se met en situation d'abnégation, je suis rien, tu es tout. Et d'ailleurs, on ne peut pas prier si on n'est pas dans cette situation-là. Prier, ce n'est pas que penser ce qu'on dit. On demande. En demande supplicative, en demande comme un pauvre, comme un pauvre qui tape à la porte chez un riche, qui se fait tout misken, tout pauvre type, d'accord, j'ai rien, je te demande.
La vie, elle n'est pas résultée. Je comprends, c'est ce que vous dites, c'est vrai à 1000%, mais la vie ne va pas se résulter à dire, à réaliser qu'Hachem est tout et que. Où est le bonheur dedans? Enfin,
je n'ai pas compris ta question. Pas pour des questions. Tu veux dire que c'est insuffisant?
Non,
tu veux
dire que... résultat à se dire ça tout le temps, mais alors.
Il n'y a pas assez de bonheur après, on n'est pas bien.
Où est le bonheur en fait?
Mais l'humilité, c'est la source du bonheur.
Voilà, c'est ça en fait.
Et l'égoïsme, c'est la source des malheurs. Le problème, c'est que notre égoïsme nous fait croire que si on ne va pas maintenant satisfaire notre égoïsme, alors on va être malheureux. D'accord. C'est complètement faux. C'est vrai, et c'est archi vrai, qu'il faut y aller délicatement. L'ego, c'est un taureau furieux. Il faut lui faire une petite caresse, un peu gentiment, alors enlever un vraiment millimètre par millimètre. Si tu vas trop vite, il y aura un retour de manivelle terrible. Terrible. Surtout nous qui provenons de l'Occident et qui avons été baignés dans une société de consommation. Quoi de consommation? De hyper-consommation. Ça veut dire quoi? Consomme, remplis-toi, remplis ton ego. Je suis, encore. La Torah dit tout le contraire. C'est très dur. On est influencé par cette culture occidentale. Donc, comment ça va faire maintenant? Le chemin inverse doit se faire. C'est un tournant, se faire très très lentement, progressivement. Très lentement, on commence à avancer. Hachem voit qu'on avance, c'est ce qu'il nous demande. Non, pas de dire aujourd'hui le grand 1, parce qu'il faut oublier, c'est pas possible. Il demande qu'on bosse. Comment on bosse? Point par point, lentement, à pas de fourmi. Bahou Hadonai, l'homme va mettre.